Chapitre 9. Washington DC, jeudi 18 décembre 1980. C. Arnold Barrent prit congé du président élu, sortit du Mayflower Hotel et alla jusqu'à l'aéroport national en passant par l'immeuble du FBI. Sa limousine était précédée par une Mercedes grise et suivie par une Mercedes bleue. Ces deux véhicules appartenaient à l'une de ses compagnies et leurs occupants étaient aussi bien entraînés que les agents peu discrets en poste au Mayflower. « Je trouve que la conversation s'est très bien passée », dit Charles Colben, le seul autre passager de la limousine. Barrent acquiesça. « Le président a très bien accueilli vos suggestions », poursuivit Colben. « Apparemment, il risque de venir à la retraite de l'Island Club en juin. Ce serait intéressant. Nous n'avons jamais reçu un président en exercice jusqu'ici. »
« Le président élu, » corrigea Barrent.
« Hein ?»«
Vous avez dit que le président avait très bien accueilli mes suggestions, » dit Barrent. « Vous voulez dire le président élu. Carter reste notre président jusqu'en janvier. »
Colben eut un petit ricanement moqueur. « Que disent vos informateurs au sujet des otages ?» demanda Barrent à voix basse. « Que voulez-vous dire ? Seront-ils libérés durant les dernières heures du mandat de Carter, ou bien pendant celui de son successeur ?» Colben haussa les épaules. « Nous, c'est le FBI, pas la CIA. Nous travaillons sur le territoire national, pas à l'étranger. »
Barrent hocha la tête, un petit sourire aux lèvres. « Et une partie de votre travail sur le territoire national consiste à espionner la CIA. Je vous demande donc, quand les otages vont-ils rentrer chez nous ?»
Colben plissa le front et contempla les arbres nus du Maine. « À notre avis, dans les 24 heures qui précéderont ou suivront la prise d'investiture. Mais vu la façon dont l'Ayatollah a baisé Carter pendant un an et demi, ça m'étonnerait qu'il lui fasse une fleur au dernier moment. »
« Je l'ai rencontré une fois. Un personnage très intéressant. »«
Hein ? Qui ça ?» dit Colben déconcerté. Au cours des 4 dernières années, Barrent avait souvent invité les Carter dans sa propriété de Palm Springs et dans son château de Thousand Islands.
« L'Ayatollah Khomeini, » dit patiemment Barrent.
« J'étais à Paris et je suis allé le voir à Naufle-le-Château peu de temps après son départ en exil. Un de mes amis m'avait dit que je trouverais cet imam fort amusant. »«
Amusant ?» dit Colben. « Ce connard fanatique ?»
Barrent se renfrogna légèrement devant un tel langage. Il n'aimait guère les grossièretés. Quelques jours plus tôt, il avait utilisé le mot « emmerdeuse » en s'adressant à Tony Harrod, pensant qu'une expression vulgaire était nécessaire pour se faire comprendre d'un homme vulgaire. Charles Colben était également vulgaire.
« Ce fut très amusant, » continua Barrent, regrettant à présent d'avoir abordé ce sujet.
« Nous avons eu un entretien d'un quart d'heure avec le chef religieux. Il y avait un interprète, bien qu'on m'ait dit que l'ayatollah comprenait parfaitement le français, et... « Vous ne devinerez jamais ce que ce petit bonhomme a fait juste avant la fin de notre audience. »«
Il vous a demandé de financer sa révolution ?»
proposa Colben d'une voix qui trahissait sa totale indifférence.
« Il a essayé de m'utiliser, »
dit Barrent en souriant de nouveau, sincèrement amusé par ce souvenir.
« Je l'ai senti sonder mon esprit à l'aveuglette, à l'instinct. » J'ai eu l'impression qu'il se croyait le seul être au monde doué du talent. J'ai également eu l'impression qu'il se prenait pour Dieu.
Colben eut un nouveau haussement d'épaules. Il se serait senti un peu moins divin si Carter avait eu assez de couilles pour lui envoyer quelques B-52 dès la première semaine de la prise d'otage.
Barrent changea de sujet. Et où est notre ami Monsieur Harrod aujourd'hui ?
Colben sortit un inhalateur de sa poche, se l'appliqua sur les deux narines et grimaça.
Lui et sa secrétaire, si c'en est bien une, se sont envolés hier soir pour l'Allemagne, afin de voir si notre ami Willy ne serait pas bien vivant et de retour au Vaterland, je présume.
Exact.
Avez-vous envoyé quelqu'un pour l'accompagner ?
Colben secoua la tête.
Inutile. Trask a demandé à ses vieux contacts de Francfort et de Munich de garder un œil sur le château. Harrod ira sûrement y faire un tour. Nous surveillerons de loin les manœuvres de la CIA.
Y trouvera-t-il quelque chose ?
Charles Colben haussa les épaules.
Vous ne pensez pas que notre monsieur Borden soit encore en vie, n'est-ce pas ?
Demanda Barent.
Non, je ne vois pas comment il aurait pu être assez malin pour s'en tirer. Je veux dire, c'est nous qui avons eu l'idée de contacter la Drayton pour qu'elle élimine Borden. Ses actes devenaient trop publics. Nous en avons décidé à l'unanimité, pas vrai ?
Pour découvrir ensuite les petites indiscrétions de Nina Drayton. Ah, quel dommage !
Quel dommage !
Barent se tourna vers le bureaucrate chauve. Quel dommage qu'ils n'aient pas été membres de l'Island Club tous les deux. C'étaient des individus exceptionnels.
Conneries, dit Colben. C'était des dingues.
La limousine s'arrêta. Les verrous de la portière se débloquèrent du côté de Colben. Barent regarda l'entrée de service du nouvel immeuble du FBI, un monument de laideur.
Vous êtes arrivé, dit-il.
Puis, lorsque Colben fut descendu, et alors que le chauffeur se préparait à refermer la porte, il ajouta « Il faudra vraiment que vous surveilliez votre langage, Charles. »
Il laissa l'homme chauve debout sur le trottoir, les yeux fixés sur la limousine qui s'éloignait.
Il ne fallut que quelques secondes à Barent pour atteindre l'aéroport national. Son 747 reconverti l'attendait devant son hangar privé. Les moteurs de l'avion tournaient, l'air conditionné était branché, et un verre d'eau minérale glacée attendait Barent près de son fauteuil préféré. Don Mitchell, le pilote, entra dans le compartiment avant et le salua.
« Tout est prêt, monsieur Barent, » dit-il. « Il ne reste plus qu'à communiquer le plan de vol à la tour.
Quelle est notre destination, monsieur ?»«
J'aimerais aller sur mon île, »
dit Barent en sirotant son eau minérale. Mitchell eut un petit sourire. C'était une vieille plaisanterie. C. Arnold Barent possédait plus de 400 îles dans le monde entier et des résidences sur une vingtaine d'entre elles.
« À vos ordres, monsieur, » dit le pilote, puis il attendit.
« Informez la tour que nous suivrons le plan de vol E. »
Barent se leva, gardant son verre à la main, et alla vers la porte de sa chambre.
« Je vous ferai savoir quand je serai prêt. »
« À vos ordres, monsieur. Nous avons l'autorisation de décoller dans le quart d'heure qui vient. »
Barent congédia Mitchell d'un hochement de tête et attendit qu'il soit parti. L'agent spécial Richard Haynes était assis sur l'immense lit lorsque Barent entra. Il se leva, mais fut invité à se rasseoir par Barent, qui finit son verre et ôta son veston, sa cravate et sa chemise. Il jeta la chemise froissée dans un panier et prit une chemise propre dans un tiroir encastré dans la cloison.
« Quoi de neuf, Richard ?»
dit Barent en boutonnant sa chemise. Haynes scia et prit la parole.
« Monsieur Colben et Monsieur Trask se sont de nouveau rencontrés ce matin, avant votre rendez-vous avec le président élu. Trask fait partie de l'équipe de transition. »«
Oui, oui, » dit Barent toujours debout. « Et où en est la situation à Charleston ?»«
Le FBI surveille toujours son évolution. L'équipe chargée d'enquêter sur la catastrophe aérienne est persuadée que l'avion a été détruit par une bombe. Un des passagers, enregistré sous le nom de George Hummel, a payé son billet avec une carte de crédit volée à Bar Harbor, dans le Maine. »«
Dans le Maine, » répéta Barent.
Neiman Trask était un des assistants du principal sénateur du Maine.
Très maladroit.
Oui, monsieur.
Quoi qu'il en soit, monsieur Colben n'a pas apprécié votre directive, selon laquelle il ne fallait pas interférer avec l'enquête du shérif Gentry. Hier, il a rencontré monsieur Trask et monsieur Kepler au Mayflower, et je suis presque sûr qu'ils ont envoyé une ou plusieurs personnes à Charleston hier soir.
Un des plombiers de Trask ?
Oui, monsieur.
« D'accord.
Continuez, Richard.
Aujourd'hui, à environ 9h20, heure locale,
Le shérif Gentry a intercepté un homme qu'il avait pris en filature dans une Plymouth Volare 1976. Gentry a tenté d'appréhender l'homme. Celui-ci a commencé par résister, puis il s'est tranché la gorge avec un couteau à cran d'arête de fabrication française. Il a été déclaré mort à son arrivée à l'hôpital général de Charleston. Ni ses empreintes digitales, ni la plaque d'immatriculation de sa voiture n'ont permis d'obtenir le moindre renseignement. On a lancé des recherches à partir de ces empreintes dentaires, mais elles prendront plusieurs jours.
Ils ne trouveront rien si c'est un des plombiers de Trask, dit Barent d'une voix songeuse.
Le shérif a-t-il été blessé?
Non, monsieur, si l'on s'en rapporte à notre équipe de surveillance.
Barent hocha la tête. Il prit une cravate en soie accrochée à un râtelier et se mit à la nouer. Il laissa son esprit se tendre vers la conscience de l'agent spécial Richard Haynes. Il sentit le bouclier mental qui faisait de Haynes un neutre, une coque solide abritant le flot de pensées, d'ambitions et de sombres pulsions qu'était Richard Haynes. Comme la plupart des personnes douées du talent, tel Barent lui-même, Colben avait choisi un neutre comme bras droit. Bien qu'incapable d'être conditionné, Haynes ne risquait pas non plus d'être dévoyé par une personne douée d'un talent plus puissant. Du moins, Colben le croyait-il. Barent glissa le long de la surface du bouclier mental jusqu'à ce qu'il ait trouvé l'inévitable faille. Pénétra plus avant, dans le pitoyable labyrinthe des défenses de Haynes, fit courir sa volonté le long des fils qui formaient la trame de la conscience de l'agent du FBI. Il toucha le centre du plaisir de Haynes, et l'agent ferma les yeux, comme si un courant avait traversé son corps.
« Où est la Fuller ?» demanda Barent.
Haynes ouvrit les yeux. « Aucune nouvelle depuis l'incident de lundi soir à l'aéroport d'Atlanta. Avez-vous pu remonter à la source de l'appel téléphonique ?»«
Non, monsieur. Selon l'opérateur de l'aéroport, c'était un appel local. »
Pensez-vous que Colben, Kepler ou Trask puissent obtenir des informations sur l'endroit où elle se trouve et sur celui où se trouve Willy?
Haynes hésita une seconde.
Non, monsieur, dit-il enfin. Quand on les retrouvera, je pense que ce sera grâce au travail du FBI. Je le saurai en même temps que monsieur Colben.
Avant lui, de préférence, dit Barent avec un sourire.
« Merci, Richard. Comme toujours, j'ai trouvé votre compagnie extrêmement stimulante. Lester se trouvera à l'endroit habituel si jamais vous avez besoin de me contacter. Je veux être informé dès que vous saurez où se trouve la Fuller ou notre ami allemand. »
« Oui, monsieur. » Haynes fit mine de partir.
« Oh, Richard !»
Barent était en train d'enfiler un blazer en cachemire bleu.
Pensez-vous toujours que le shérif Gentry et ce psychiatre...
Lasky, dit Haynes.
Oui, dit Barent en souriant. Pensez-vous toujours qu'il soit nécessaire d'annuler définitivement les contrats de ces messieurs?
Oui. Haynes plissa le front et formula sa réponse avec soin.
Gentry est trop intelligent pour son bien. J'ai cru tout d'abord que les meurtres de Mansard House l'avaient troublé parce qu'ils affectaient son image de marque dans le comté. Mais j'ai fini par acquérir la conviction qu'il les considérait comme un affront personnel. C'est un gros pecno de flic buté.
Mais intelligent.
Ouais.
Haynes plissa de nouveau le front.
Pour Lasky, je ne sais pas, mais il est déjà trop... impliqué. Il connaissait Mrs. Drayton et...
Oui, oui, l'interrompit Barent.
Eh bien, peut-être avons-nous d'autres plans pour le docteur Lasky.
Il regarda l'agent du FBI pendant un long moment.
Richard?
Oui, monsieur. Barent joignit les extrémités de ses doigts.
Il y a une chose que je voulais vous demander, Richard. Vous avez travaillé pour M. Colben pendant plusieurs années avant qu'il n'adhère au club.
Est-ce exact?
Oui, monsieur.
Barent se tapota la lèvre inférieure avec le sommet du prisme formé par ses doigts.
Ma question, Richard, est la suivante. Pourquoi ?
Haynes plissa le front en signe d'incompréhension.
Je veux dire, poursuivit Barent, pourquoi faire toutes les choses que vous demandait Colben, qu'il vous demande encore, si vous avez le choix ?
Le visage de Haynes s'éclaira. Son sourire révéla des dents superbes.
« Oh !» dit-il, « je pense que j'aime mon travail. »
« Est-ce que ce sera tout pour aujourd'hui, Monsieur Barent ?»
Barent regarda fixement l'autre pendant une seconde, puis répondit oui.
5 minutes après le départ de Haynes, Barent appela le pilote par l'interphone.
« Donald, veuillez décoller maintenant. J'aimerais aller sur mon île. »